Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur l'April. Nous avons intitulé ce sujet « Au cœur de l'April, confiné ou déconfiné » avec Élodie Daniel-Giraudon, Isabelle Vanni, Baptiste Lemoine et Fabrice Noël. Alors, normalement, nous avons tout le monde au téléphone, mais des fois la technique nous lâche. Mais là, le réalisateur Étienne me dit que tout le monde est au téléphone. Donc, en une petite introduction, donc depuis 1996, l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, diffuse l'esprit du libre. L'émission Libre à vous est un de nos projets, mais il y en a bien d'autres. On va essayer de vous faire découvrir à travers cette émission, et la prochaine, le 1er décembre 2020, les coulisses de l'association, quelques actions, découvrir des personnes de l'équipe salariée ou bénévole qui nous permettent d'avoir une action vivante, une association vivante et active pour la promotion et la défense du logiciel libre. On va donc, en quelques mots, tenter de vous diffuser l'esprit de l'April. Alors, on va commencer par une première question. Alors, je précise que vous pouvez intervenir à distance si vous le souhaitez sur le salon web de l'émission, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, ou par téléphone. Allez, soyons fous, on prend les risques. 09 50 39 67 59. Je répète, 09 50 39 67 59. Alors, première question, une question de présentation rapide, d'où vous venez, ce que vous faites à l'April, en moins d'une minute. On va commencer par Isabella Vanni.
Bonjour à tout le monde, je m'appelle Isabella Vanni, je fais partie de l'équipe salariée de l'April depuis 2014. Je m'occupe notamment de la gestion des membres, de l'organisation administrative et logistique et des activités en lien avec la sensibilisation au logiciel libre à destination principalement du grand public. Et dans ce cadre, j'anime le groupe de travail sensibilisation.
Ben écoute, merci Isabella. Baptiste Lemoine.
Eh bien, donc Baptiste, Woutikain, j'anime un service qui s'appelle Mobilisons, qui est en train d'être installé auprès du Chapril. Et donc voilà, le but c'est de pouvoir organiser des événements de façon libre et décentralisée.
Merci Baptiste, on précisera tout à l'heure évidemment ce qu'est Chapril et Mobilisons. Fabrice Noël.
Oui, bonjour, je m'appelle Fabrice, donc, et après avoir travaillé plus de 30 années dans l'informatique dans des grandes entreprises parisiennes, j'ai créé ma petite structure de consulting qui m'occupe à mi-temps, et donc ça me laisse un bon mi-temps pour faire du bénévolat auprès d'associations et de collectifs, en les aidant à utiliser les technologies du numérique, et dans le cadre de l'April, je participe avec Isabella au groupe Sensibilisation, qui, comme son nom l'indique, est chargé de faire comprendre au grand public pourquoi c'est important de défendre cette cause. Et croyez-moi que c'est un exercice plus difficile qu'il n'y paraît, tant le problème est complexe.
Merci Fabrice. Et Élodie Daniel-Giraudon.
Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Élodie. J'ai fait des études personnellement en mathématiques informatiques. Et suite à une expatriation en Suisse, je me suis reconvertie dans la pâtisserie. Pour autant, je n'ai pas fait une croix sur l'informatique et l'April me permet de garder un œil sur l'informatique libre, surtout via les podcasts. Donc quand vous avez lancé un appel pour avoir de l'aide pour le montage des podcasts, je me suis dit que c'était l'occasion de soutenir un projet qui me parlait et qui me tenait à cœur. Et donc depuis septembre, je fais partie de l'équipe podcast. Vous m'avez accepté malgré mon inexpérience. Et je monte, je découpe, je nettoie, j'équilibre, je compresse pour que les personnes comme moi puissent écouter vos belles émissions.
Bah écoute, Élodie, c'est parfait, mais en fait, j'ai quasiment plus de questions à te poser. T'as tellement bien résumé ce que tu fais. Mais ceci dit, on va commencer donc par toi. Alors, je vous principe, vous avez bien compris, donc, dans les personnes qui interviennent, vous avez une personne de l'équipe salariée, ma collègue Isabella, et vous avez trois personnes bénévoles. Et donc, on va aborder, en gros, trois activités dans cet échange-là. Un peu l'émission Libre à vous, un peu les coulisses, le groupe Sensibilisation et le Chapril. Donc, comme Élodie vient de bien présenter son arrivée à l'April et que le premier sujet, un petit peu la première grande thématique, c'est un petit peu comment vous avez découvert l'April, pourquoi vous avez contribué, l'accueil des bénévoles à l'April, pour expliquer un petit peu comment ça se passe. On va commencer par toi. Donc tu viens d'expliquer effectivement donc que tu écoutais les podcasts. Comment tu as découvert les podcasts de Libre à vous? Est-ce que tu t'en souviens?
Je suis plus très très sûre, mais ça fait un bout de temps que je suis d'un peu loin les projets de Framasoft, qui est aussi donc une association qui promeut le libre. Et vous avez fait une émission sur eux l'année dernière. Et en fait, j'ai dû lire quelque chose à ce sujet. Et depuis, je me suis abonnée au podcast de Libre à vous. Et je découvre, j'apprends beaucoup de choses sur le libre et l'April grâce à vous.
D'accord. Et donc, tu étais auditrice de Libre à vous. Et donc, en début, il y a quelques semaines, on a fait un appel donc, pour recevoir de l'aide pour le traitement des podcasts. Donc, tu as vu cet appel. Et en fait, tu t'es dit, c'est une façon de contribuer, malgré le fait que, comme tu le dises, en fait, tu ne connaissais pas du tout avant de commencer le travail de traitement des podcasts.
C'est ça, je ne connaissais rien du tout. Mais c'était pas plus par souci de justice et d'équité. J'apprends beaucoup grâce à vous chaque semaine. et cela me semblait juste de participer à ce projet. Et puis bon, peut-être aussi un peu plus égoïstement, je voulais continuer à écouter mon émission préférée en podcast.
Oui, parce que finalement, quand tu traites le podcast, tu l'écoutes en fait. Il faut savoir que le traitement de podcast peut prendre, bah, pour une émission d'1h30, ça peut prendre 2 heures parce qu'il faut le temps d'écoute du podcast, le temps du traitement, etc.
Oui, alors en tant que débutante, c'est un peu plus que 2 heures. Et je l'écoute à peu près 3 ou 4 fois, mais oui.
D'accord. Alors, donc on commence par ce premier sujet-là, puis on va faire des allers-retours avec les autres sujets, donc sur la partie libre à vous. Donc pour comprendre un petit peu, pour que les personnes comprennent un petit peu comment on fait la question libre à vous, et si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas à les poser sur le salon web ou à nous appeler au 09 50 39 67 59. Donc je vais essayer d'aller relativement vite parce qu'on a un peu perdu de temps avec les problèmes techniques de début d'émission. Donc comment se fait l'émission libre à vous ? Donc libre à vous qui existe depuis 2018 a deux objectifs, hein, c'est informer, donc notamment sur nos dossiers et puis sur d'autres sujets, donc avec les chroniques, et aussi mobiliser. Et d'un point de vue technique, donc là, alors normalement, on est tous au studio ou toutes au studio de la radio Cause Commune qui est dans le 18e. Là, exceptionnellement, pendant cette période qui se prolonge malheureusement, Étienne est en régie. Moi, je suis de l'autre côté de la vitre avec les micros. Donc, la réalisation est effectuée par 3 personnes, en fait. Donc, Étienne, Isabella et un bénévole qui s'appelle Patrick. Et ce que vous écoutez, vous, en direct, bah, c'est vraiment le direct, le flux, les problèmes techniques, etc. Mais ce que vont écouter les gens qui vont écouter le podcast, c'est pas du tout ça. C'est un flux, enfin c'est un fichier qui aura été retravaillé donc par une équipe podcast qui aujourd'hui est composée donc d'Elodie, de Samuel Aubert, d'Olivier Imbert et de Sylvain Kutzmann qui est toujours présent, qui était notre traiteur de podcast historique. Et avec un nettoyage, c'est-à-dire notamment ben, enlever les problèmes techniques, éventuellement remettre des musiques, faire tout ça un travail qui fait qu'en fait l'archive de l'émission, qui est les podcasts, est de bien meilleure qualité que le direct, mais par contre on se moire main parce qu'en direct on a des problèmes techniques que vous pouvez vivre en direct. Et donc ce qui est intéressant par rapport à ton expérience Elodie, c'est que toi tu es arrivé, effectivement tu nous as dit moi j'y connais rien mais j'apprends vite, c'est ce que tu as dit. Non mais c'est vrai, et en fait donc on a une liste interne où il y a vous quatre, donc la liste traitement des podcasts, et moi ce qui m'impressionne c'est les échanges que tu peux avoir avec notamment Samuel Aubert, les échanges techniques sur le traitement des podcasts, sur les choses qu'il faut faire. Enfin, vraiment, tu as appris très très vite en fait à faire ce travail, avec aussi l'aide évidemment des conseils de Samuel, mais c'est quand même d'un niveau technique très élevé.
Je dirais pas ça, parce qu'effectivement, certains autres membres ont un niveau très très élevé eux, mais effectivement, je suis arrivée début septembre dans l'équipe. Alors, ça a été progressif. Hein, j'ai d'abord travailler sur la bande-annonce, ensuite sur simplement des sujets. Et puis, j'ai fait mon premier traitement de podcast entier fin octobre, donc au bout de 2 mois. Mais j'ai eu beaucoup d'aide. À chaque fois que j'avais une question, j'avais des réponses bienveillantes, alors que ça devait paraître bien profane comme question. Et le wiki aussi de l'April est très bien fait. Mais voilà, un soutien sans faille. C'était parfait.
D'accord. Alors là, tu précises, tu parles du wiki, c'est un point intéressant, et je vais peut-être aussi questionner là-dessus Fabrice et j'allais dire Tiken, mais pas Baptiste, même si on t'appelle Tiken. Effectivement, vu qu'on est dans la partie organisation de l'April, je crois que c'est Luc dans le décryptualité de cette semaine, hein, disait qu'il avait rarement vu des méthodes d'organisation à ce point, même dans les entreprises dans lesquelles il travaille. Et c'est vrai que l'une des caractéristiques qu'on a dans nos méthodes d'organisation, c'est la documentation extensive de ce qu'on fait. Donc par exemple, les personnes qui sont intéressées par l'organisation de Libre à vous, vous allez sur le wiki de l'April, on mettra les références, vous avez l'ensemble de l'organisation de l'émission qui est documentée, et également effectivement la partie traitement des podcasts qui permet en fait aux personnes qui arrivent d'avoir de la documentation et tout de suite de pouvoir prendre en main les choses. Baptiste, toi, sur la partie donc le Chapril, alors déjà je vais te faire un petit piège, on va voir si tu auras préparé. Chapril, c'est la contribution de l'April au collectif Chaton. C'est quoi le collectif Chaton ?
Alors les Chatons, très facile, c'est un collectif d'hébergeurs autonomes, neutres et solidaires et transparents aussi. Donc c'est des gens qui se disent, on va faire un truc ensemble pour mettre des services en ligne à disposition de gens normaux qui ne sont pas du tout des techniciens, pour qu'ils puissent découvrir des alternatives à des choses qu'ils utilisent tous les jours. Sauf que ces services-là, ils seront sur le plan de l'éthique de loin supérieurs. Et donc voilà, le collectif des chatons, c'est plein d'assos, plein de groupes de gens qui font ce genre de services, de façon alors soit bénévole, soit payante, soit avec des choses entre les deux, de façon ouverte, avec un certain nombre de règles à respecter pour faire les choses proprement.
D'accord.
Et donc voilà, comme je disais, c'est effectivement un truc où il y a de l'organisation qui est très propre.
Alors, Chapril, donc le site chapril.org, c'est notre contribution au site chaton, donc des chatons, donc chaton avec un S, hein, Christian Momon qui interviendra le premier dit chatons, lui, donc avec plein de services. Mais avant de parler des services, on va rester sur la raison pour laquelle tu es arrivé à l'April. Est-ce que tu peux nous... Parce qu'on a bien vu, Elodie, elle était auditrice de Libre à vous, elle nous envoie un courriel suite à un appel à volontaire. Principalement les échanges, c'est par mail, par courriel. Toi, comment tu es venu à contribuer, à connaître l'April, à vouloir contribuer au Chapril, et comment ça s'est passé?
Alors, ça s'est passé parce que, alors dans ma vie, j'ai deux grandes composantes, deux grandes passions, on va dire. Il y a les arts graphiques, et donc ça tourne autour du fanzina, des études de l'art et de ce genre de choses, mais aussi les technologies numériques et le web. Et pendant très longtemps, je me suis dit, en fait, que je pouvais être auteur de bande dessinée et que ce serait une super idée. Donc j'ai fait des études de BD. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me familiariser avec des gens qui dessinent, des makers, qui font du fanzine. Donc les fanzines, c'est des magazines fait maison ou imprimé chez un imprimeur. Et avec ce genre de choses, j'ai appris à me familiariser, à faire des trucs à plusieurs. Donc s'organiser avec d'autres gens, sortir avec des gens pour les rencontrer, comparer nos connaissances et partager des choses. Et toutes ces choses-là, c'est des trucs que j'ai retrouvés un peu plus tard pour le numérique. Donc moi, ça fait plus de 10 ans que je fais du web de façon professionnelle. J'ai mis mon premier site web sur membre.licause.fr, donc l'époque où Licause, c'était un truc un peu connu, qui n'existe plus aujourd'hui. Hein. Et j'ai donc comme ça écumé des festivals du livre. J'ai aussi, dès le début, j'ai connu des gens qui étaient très branchés Linux, donc sur l'époque du forum Mangastyle, ou même avec des gens de chez ikaki.net, qui sont des choses qui ont un peu disparu aujourd'hui, mais les gens, on se fréquente toujours un peu de près ou de loin. Donc ces gens-là m'ont dit, essaye ça, essaye de démarrer sur ce système, regarde comment ça marche. Et au fur et à mesure de mes rencontres dans les festivals, je me suis dit, il existe vraiment des choses à découvrir. Et c'est quelqu'un du fanzine, enfin de l'association Mélusine, qui regroupe tous les fanzines francophones, qui m'a dit, tiens, tu connais l'April, ils font des trucs vachement sympas. Et donc il y avait des petits livrets, des fanzines aussi. Et c'est comme ça que je me suis mis à découvrir l'April. Donc pour fréquenter ce genre de festival où on peut créer du lien avec les gens, j'ai découvert l'agenda du libre, qui est un service mis en place par l'April. Et donc avec ça, je me suis dit au début, OpenStreetMap, c'est un projet qui a l'air marrant, je voudrais bien rencontrer des gens qui bossent là-dedans. Et avec l'agenda du libre, je me suis mis à rencontrer des groupes d'utilisateurs du libre, donc que ce soit des gens qui ne sont pas forcément professionnels du web, des systèmes libres et tout ça. C'est juste des gens qui se disent, on aimerait bien essayer de découvrir des trucs un peu plus éthiques. Et de fil en aiguille, alors j'ai d'abord rencontré un groupe d'utilisateurs comme ça à côté de chez moi, parce qu'en fait, il y en a plein en France. Et j'ai fini par rencontrer Christian dans le groupe de Juvisy sur Orc, qui est donc pas très loin de chez moi. Et c'est comme ça qu'il m'a présenté le truc, il m'a dit, nous, on a un chaton, tu connais le principe, c'est des gens qui mettent en place des choses, qui s'entraident, qui essaient de pousser des choses un peu plus éthiques. Et donc voilà, en discutant, je me suis dit, moi, je fais déjà un petit peu ce genre de choses, mais j'aimerais bien le faire un peu plus proprement. Donc, pourquoi pas. Et alors que j'avais une expérience assez menue question administration système, je me suis dit que ce serait l'occasion d'apprendre des choses et de mettre en place quelque chose qui puisse vraiment servir.
D'accord. Alors avant d'entrer dans le détail de Chapril et autres, sur l'April a beaucoup d'outils d'accueil. Je ne vais pas tous les citer, mais ce qui est plutôt intéressant, c'est les outils que vous avez utilisés. Comme je disais tout à l'heure, Elodie, c'était des échanges principalement par courriel. Toi, je crois que dans la pratique de Christian, il y a l'audioconf d'une heure où il te présente le Chapril, le fonctionnement. Est-ce que c'est bien ça ou est-ce qu'il est vraiment...
C'était vraiment en discutant plusieurs fois. Donc d'abord en live, puis ensuite on a fait une audioconf avec un service du Chapril. Donc ça sert aussi à l'usage interne. Et c'est nous a présenté le truc, en quoi ça consiste. On a échangé questions-réponses. Et je me suis dit, pourquoi pas.
D'accord. Donc on voit déjà qu'au niveau de l'accueil à l'April, il y a différentes méthodes, ou en tout cas en fonction des gens, puis en fonction des projets. Donc on va revenir évidemment sur toi après, Baptiste. Là, j'aimerais interroger un petit peu Fabrice sur son expérience. Alors Baptiste, je précise que tu es membre récent de l'April. Fabrice est membre plus ancien de l'April, mais contributeur plus récemment dans le groupe Sensibilisation. Donc Fabrice, est-ce que tu peux, pareil que Elodie et Baptiste, nous expliquer pourquoi tout d'un coup tu t'es dit que tu allais contribuer à ce groupe de travail et comment ça s'est passé?
Ah ben, et alors je dirais que c'est très simple, en fait, c'est le temps que je n'avais pas avant pour contribuer à un groupe de travail. Et aujourd'hui c'est un petit peu différent. Hein. Alors mon histoire est un peu plus longue parce que je dois être un petit peu le doyen de l'émission aujourd'hui. Mais je dirais que ça fait très longtemps que je m'intéresse à toutes les problématiques que pose l'Internet et ses usages aujourd'hui. Bien parce que j'ai eu la chance de connaître un petit peu les années folles de l'informatique, hein, parce que je suis né en 60, hein, donc j'ai vu arriver tout ça. Et à un moment donné, dans ma carrière professionnelle, où j'étais dans le monde de l'informatique, j'ai bien vu qu'un problème allait se poser assez vite vis-à-vis de l'emprise qu'allait avoir sur nous un petit peu tous ces géants de ce secteur. Et tout de suite, je me suis intéressé à cette informatique libre, à cette manière de faire différemment l'informatique, d'avoir des usages différents, plus justes, plus éthiques, et forcément j'ai découvert toutes les associations, tous les collectifs qui, comme l'April, allaient prendre ce programme à bras le corps. Après, les activités professionnelles font qu'on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à tout ça, et c'est pour ça que j'ai rejoint là récemment le groupe Sensibilisation, où là effectivement on travaille sur des sujets complexes, puisqu'en fait notre objectif c'est de sensibiliser la population sur effectivement tous ces dangers que représentent les mauvais usages du numérique et que peuvent représenter aussi les géants du numérique qu'on connaît tous maintenant sous le fameux acronyme GAFAM, mais il y en a d'autres. Et voilà, et c'est un groupe de travail hyper intéressant. On essaye de manier la langue française d'une telle manière pour qu'on soit compréhensible par tous, parce que comme je le disais au début de l'émission, les problématiques sont complexes, elles sont vastes, elles sont variées, il faut qu'on soit audible pour tout le monde, que ce soit la jeunesse d'aujourd'hui, mais aussi les moins jeunes. Et voilà, et c'est un groupe vraiment sympa, on produit effectivement des choses. Aujourd'hui, dans le cadre du jeu du Gnou, par exemple, qui est un jeu de plateau avec des cartes, et sur chaque carte, on essaye d'expliquer en quoi telle chose peut être un problème pour sa vie privée, pour les autres, etc., etc.
D'accord. Alors, le jeu du Gnou, c'est un jeu coopératif. J'en profite donc pour passer la parole à Isabella, donc Isabella Vanni, qui est donc ma collègue, hein, notamment en charge de la vie associative, et qui est l'animatrice de ce groupe de travail sensibilisation. Et juste avant de te demander de nous expliquer ce qu'est le jeu du Gnou et comment toi tu accueilles les nouveaux bénévoles, je vais préciser que la quasi-totalité ou presque des activités de l'April sont ouvertes à toute personne, même non membre de l'April. C'est-à-dire que si vous voulez participer au groupe sensibilisation, vous allez sur le site april.org, vous cherchez, parce que bon, faut trouver le lien pour le groupe sensibilisation ou les listes de diffusion, et vous pouvez vous inscrire. Je précise que bientôt il y aura un nouveau site web qui sera beaucoup plus efficace, mais en tout cas la quasi-totalité de nos activités sont ouvertes à toute personne, dont le groupe sensibilisation. Donc Isabella, toi tu es l'animatrice de ce groupe sensibilisation, et je dirais que quelque part le confinement t'a un peu réussi, ou en tout cas réussi aux activités du groupe, parce que notamment t'as initié des réunions hebdomadaires chaque jeudi soir en visioconférence, et ce qui a permis d'avancer sur le jeu du Gnou. Donc, comment ça s'est passé le confinement et c'est quoi le jeu du Gnou, Isabella Vanni?
Très bien, il y a beaucoup de questions. Tout d'abord, je voulais rebondir sur ce que tu disais. On est en train de refondre notre site web pour permettre aux personnes de trouver plus facilement les informations. Et effectivement, aujourd'hui, c'est peut-être un peu caché, le groupe sensibilisation. Ce que j'ai fait, c'est que à chaque fois que j'annonce une réunion, soit sur notre agenda, soit sur l'agenda du libre, je ne me limite pas seulement à annoncer la réunion, mais je donne aussi toute une série d'informations sur le groupe. Les liens, donc c'est une autre porte d'entrée que j'ai trouvée pour communiquer autour de ce groupe. On avait l'habitude effectivement de se réunir en présentiel, donc à la Fondation pour le progrès de l'homme dans le 11e arrondissement à Paris. On faisait une réunion mensuelle, donc le troisième jeudi du mois. Et ça fait déjà 2 ans qu'on s'est lancé dans ce projet du jeu du Gnou, donc jeu de plateau coopératif et pédagogique, qui a montré en fait toute sa complexité, parce que comme l'expliquait très bien Fabrice, la dynamique du jeu est assez facile, hein. C'est un jeu qu'on joue avec des dés. Les jeux coopératifs, en fait, je ne sais pas si vous connaissez, mais le principe c'est qu'on est une équipe, donc il n'y a pas plusieurs pions, il y a un seul pion pour l'équipe, et puis à tour de rôle, on remplir les dés, on essaie de faire avancer l'équipe ensemble. On a trouvé aussi l'astuce de s'entraider, parce qu'on se trouve face à des dangers informatiques, donc on essaie d'acquérir des protections en répondant correctement à des questions, à des quiz. Et on peut aussi transférer les protections qu'on acquiert aux membres de notre équipe pour montrer voilà, que l'entraide marche bien et c'est grâce à ça qu'on arrive à avancer. Donc la dynamique du jeu, on l'a trouvée, ça n'a pas été évident. On a même demandé de l'aide à un éditeur de jeux coopératifs professionnels. Hein, ils nous ont accueillis dans leur siège, on leur a montré le jeu, on a joué ensemble, ils nous ont donné plein d'astuces, plein de tuyaux pour améliorer la dynamique. Mais après, il y a aussi la partie texte, c'est-à-dire qu'il faut effectivement d'un côté bien expliquer les enjeux, comme disait Fabrice, il faut être clair, il faut s'adresser au public, au grand public, il faut que le public se sente interpellé, c'est-à-dire qu'il comprenne qu'il s'agit de danger, parce que c'est pas non plus évident. Et il fallait aussi élaborer des quiz avec deux niveaux différents, un niveau plus débutant, un niveau un peu plus averti. Et là aussi, au départ, on avait commencé en posant juste les questions, et pendant les ateliers qu'on a fait avec du vrai public, on s'est rendu compte que le public, devant la page blanche, était un petit peu perdu, et c'est pour ça qu'on est passé à des quiz avec la réponse oui ou non, ou à option à choix multiple. Et cela permet en effet de donner des indices, parce que bien évidemment la réponse est un petit peu aussi dans les options. Donc voilà, ce qui au départ ça semblait entre guillemets facile, en réalité ça s'est montré beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait pas. Il y a beaucoup d'aspects auxquels réfléchir, mais c'est ça aussi qui est passionnant. Et puis voilà, pendant le confinement, la réunion présentielle n'était plus possible, on est passé à la réunion à distance. Et puis, comme il y avait moins d'activités par rapport notamment à la participation aux événements, parce que voilà, pour l'instant, cette partie de mon travail est à l'arrêt, ben, je me suis rendue disponible pour animer les réunions chaque semaine. Et on a officialisé récemment ça, ce qui permet à la fois d'anticiper un petit peu la réunion, parce qu'il n'y a pas le transport à prendre en compte pour se rendre au lieu où on faisait les réunions avant. Et puis, il y a la possibilité aussi de faire participer des personnes qui n'habitent pas à Paris. Donc ça c'est génial, et même quand il n'y aura plus de confinement, on espère bientôt, je compte continuer de faire au moins une réunion à distance en plus par mois, parce que c'est vraiment chouette de pouvoir faire participer le plus grand nombre. Et tu as bien fait de le rappeler, Fred, ces réunions sont ouvertes à tout le monde, donc il n'est pas nécessaire d'être membre de l'April, et il n'est pas nécessaire non plus d'être des techniciens. Au contraire, si vous êtes passionné par ces thématiques, il faut sensibiliser. Donc il s'agit de donner des arguments, de donner des informations, de savoir bien s'exprimer en français. Donc voilà, même si vous n'avez pas de compétences techniques, mais c'est pas ça le point, vous pouvez absolument participer, on sera ravis de vous accueillir.
Alors merci Isabella, je précise que pour les réunions à distance, vous utilisez donc l'outil de visio du chapril.org, et dont on va tout à l'heure parler avec Baptiste et aussi Mobilizo. Mais sur cette partie-là, j'ai une dernière question un petit peu collective. D'abord, j'ai précisé une chose tout à l'heure, je disais que l'April avait beaucoup d'outils d'accueil qu'on a développé au fur et à mesure des années. Alors, quand je parle des outils, c'est des trucs très simples. Hein. C'est quand une personne adhère à l'April, par exemple, il y a des courriers d'accueil spécialisés, dédiés sur le paiement de la cotisation, sur le fait de simplement rester informé, de fait participer, parce qu'il y a des gens qui veulent juste rester informés, d'autres qui veulent participer. Il y a un mois après l'adhésion, il y a un questionnaire qu'on envoie pour voilà comment la personne voit l'April, est-ce qu'elle a des questions, est-ce qu'elle veut participer à quelque chose, donc ce qui permet effectivement d'avoir un retour aussi. Il y a des accueils dédiés lors des inscriptions à une liste. Quelqu'un qui va s'inscrire, par exemple, sur la liste de sensibilisation va être accueilli par les personnes. Thérèse, qui s'occupe du site de traduction GNU, pareil, GNU.org, elle accueille les personnes qui arrivent et qui ont des questions. Il y a un salon d'accueil web, par exemple, pour les gens qui ont des questions particulières et qui ne veulent pas aller sur un salon où il y a plein de gens. Chaque groupe de travail a un animateur ou une animatrice. Il y a que je parlais tout à l'heure de la documentation publique extensive de nos activités. Quasiment tout est documenté donc sur wiki.april.org. Il y a la revue hebdo sur le salon web chaque vendredi. Pendant le confinement, il y a également nos sessions Mumble de prise de nouvelles, d'échanges pour notre santé mentale à toutes et à tous. Donc il y a beaucoup d'outils, mais j'ai envie de vous demander...
Fred,
oui, vas-y.
Il y avait aussi, quand on, c'était encore possible, on faisait aussi un apéro mensuel, ce qui permettait aux personnes habitant en Paris, Île-de-France, de nous voir en personne et d'échanger autour de l'association. Voilà.
Alors tout à fait, et c'est tellement loin que j'ai oublié ce moment magique des apéros. Il y en a aussi à Marseille, malheureusement il devait y en avoir un d'ailleurs ce week-end, bon il est annulé, mais à un moment les apéros vont venir. Donc il y a beaucoup d'outils, mais peut-être que, donc notamment là la question s'adresse à Fabrice, à Baptiste, à Elodie aussi, même si Elodie, toi, tu n'es pas membre, mais tu as aussi un accueil, entre guillemets. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a soit surpris ou quelque chose qui vous paraît manquant, peut-être dans ce que l'April propose, en ce que l'April fait par rapport à cet accueil-là? Et après, on passera sur un petit peu Chapril, sensibilisation et l'émission. Alors, comme je ne vous vois pas, je vais essayer de pour donner des prénoms. Ah, qui veut intervenir? Baptiste?
Ouais, moi je trouve que c'est formidable qu'il y ait autant de trucs, il y a autant de points d'entrée et de contact avec l'asso, parce que j'ai fréquenté pas mal d'asso, il y a aussi d'autres moyens de contacter les gens, mais ce qui est bien, c'est que, enfin, ce qui est bien chez l'April en tout cas, c'est que le contact, il arrive à être maintenu assez facilement, je trouve, contrairement à d'autres groupes. Quelque chose qui me manque ou qui m'a surpris, il y a un truc qui m'a surpris, c'est quand j'ai vu le nombre d'adhérents. Je me disais, tiens, je connais l'April, mais je savais pas qu'il y avait autant de monde dedans. Et je crois qu'il y a presque 4000 personnes qui sont membres.
Ouais. D'accord. Alors, sachant tout à l'heure, comme je disais justement sur les courriels d'accueil, la plupart des membres sont des membres de soutien. Il y a des gens par exemple qui sont membres depuis il y en a qui sont membres depuis 24 ans, 25 ans, mais il y en a qui sont membres depuis 10-15 ans et que chaque année ils renouvellent avec un petit message souvent en disant voilà, continuez ce que vous faites, etc. Mais c'est vrai que la grande majorité ce sont des soutiens qui n'ont pas le temps de participer. Fabrice, de ton côté, est-ce que tu vois quelque chose qui manque ou est-ce que je me souviens que lorsque tu avais répondu au courriel un mois après adhésion, tu avais un certain nombre de commentaires, donc est-ce qu'aujourd'hui tu vois, il y a des choses qui t'ont plu, il y a des choses qui manquent. Fabrice Noël.
Alors en fait, il y a plein de choses. En fait. Il y a plein de choses sur le site de l'April. On peut s'abonner très facilement aux listes mail suivant les sujets ou suivant les groupes qu'on souhaite suivre. Il y a tout un tas d'informations, de liens, des choses d'actualité, etc. Chaque groupe fait ses comptes rendus, diffuse ses comptes rendus. Ces comptes rendus sur le site, on peut suivre vraiment tout le travail qui est fait pas à pas. Il y en a presque trop pour quelqu'un qui voudrait découvrir d'un seul coup tout ce qui est fait par l'April. Mais on trouve tout et c'est quand même assez accessible, quand même, y compris pour des gens qui ne viennent pas de la technique. C'est quand même très accessible. Hein. Ce sont des wikis, ce sont des pads, donc des choses quand même très facilement accessibles que tout le monde peut utiliser d'un simple clic en fait.
Oui. Après, derrière ça, il y a peut-être la question de comment ne pas prêcher du convaincu et donc aller voir des gens qui ne sont pas déjà convaincus que le libre c'est une chose qu'on doit mettre en place, qu'on doit pratiquer et pas juste prêcher. Et du coup, il y avait la Free Software Foundation. Eux, ils font de la com avec Facebook. Et ils disent aux gens, venez vraiment voir nos infos sur notre site, venez ailleurs. Et donc, ils vont faire du débauchage sur des lieux pour que les gens qui sont là, qui ne connaissent pas les problèmes de ces lieux, puissent en sortir. Voilà, c'est une piste de réflexion, mais je ne sais pas du tout si l'April fait ce genre de truc.
Alors, sur Facebook, non, mais je ne pense pas que tu parles de la Free Software Foundation. Je pense que tu parles de la Free Software Foundation. Et en fait, nous, le débauchage, on le fait à la radio. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on adore faire de la vraie radio et pas uniquement du podcast, c'est qu'on sait très bien que parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui n'y connaissent rien. Et la meilleure preuve, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une émission, notamment avec nos voisins d'Antanac, Isabelle d'Antanac me dit qu'à chaque fois, il y a 2-3 personnes qui viennent la voir pour découvrir le logiciel libre. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait de la radio et pas uniquement un podcast. Donc j'ai fini le tour de table sur cette partie-là.
Fred.
Oui, Isa, oui.
Une autre façon de rencontrer des personnes qui s'y connaissent pas, c'est de participer à des événements grand public. Parce que nous, on avait l'habitude de participer à des événements libristes. Hein, le livre était dans le titre, dans l'intitulé de l'événement, mais on pouvait participer aussi à des événements grand public qui étaient plus axés, je sais pas, à écologie ou autre chose. On était invités et les personnes curieuses s'approchaient et découvraient plein de choses.
Oui, tout à fait.
Ouais. Donc, il y a Japan Expo que je vous ai pour la première fois rencontrer, je crois.
Tout à fait, on est présent à beaucoup d'événements et de façon totalement historique. Alors j'ai juste précisé sur le compte Facebook que l'AFSF, Free Software Foundation, n'a pas de compte Facebook, c'est la Free Software Foundation Europe qui a un compte Facebook. Ce sont deux approches différentes, mais on va pas rentrer dans ce détail-là parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Et je vois que le temps file, je voulais juste finir avec Elodie, si cet aspect accueil, tu avais une remarque, quelle qu'elle soit.
Non, pas spécialement de remarques, c'est juste beaucoup de bienveillance. Voilà, c'est parfait.
D'accord, bah écoute, merci. Alors, on a parlé tout à l'heure un petit peu du Chapril. Hein. Baptiste Lemoine nous a introduit Chapril, donc chapril.org. Allez-y, vous avez plein de services que vous pouvez utiliser librement, dont un service de visio qui est utilisé notamment par Isabella pour les réunions du groupe de travail sensibilisation. Mais des nouveaux services vont arriver. Tout à l'heure, tu as cité un service qui s'appelle Mobilisons. Donc, est-ce que rapidement tu peux nous expliquer, Baptiste, ce qu'est Mobilisons, et est-ce que quasiment tu pourrais nous dire à peu près quand est-ce que ce service sera disponible sur le Chapril, Baptiste Lemoine?
Oui, alors Mobilisons, c'est donc un logiciel libre qui permet de s'organiser et de gérer plusieurs profils pour faire le tri dans sa vie privée. Donc c'est un logiciel qui est une alternative à d'autres choses comme Meetup, les événements Facebook, les événements de plein de sortes. Et ça permet non seulement de s'inscrire à des événements sans forcément créer de compte, et donc voilà, il y a un aspect fédéré aussi qui est important, qui fait que dans tout le fait divers, donc le fait divers, si vous ne savez pas trop ce que c'est un ensemble de sites qui peuvent causer entre eux grâce à un protocole commun, qui s'appelle ActivityPub, et donc par exemple Mastodon et Peertube font partie du fait divers. Donc ça veut dire qu'avec mon compte Mastodon, je peux aller participer à un événement en mobilisation. Je peux aussi commenter sur une vidéo d'une instance Peertube. Et donc voilà, tous ces trucs-là, ça permet aux gens d'être beaucoup plus libres et de ne pas avoir besoin de s'inscrire partout. Et ça, c'est un concept assez révolutionnaire qu'on trouve nulle part ailleurs. Et donc voilà, Mobilisons, il va y en avoir une version pour le Chapril qui sortira, allez, d'ici une ou deux semaines.
Alors, ça veut dire que le 1er décembre, Christian-Pierre Maumont, l'animateur du Chapril, pourra nous annoncer la sortie de Mobilisons. Je vais juste préciser que donc Mastodon, c'est un outil de microblogging, Peertube, c'est un outil de partage de vidéos, mais comme tu le précises, c'est un outil décentralisé avec le protocole ActivityPub. Je pense qu'un jour, on fera une émission rien que sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, ça révolutionne complètement la façon de voir par rapport aux gens qui ont l'habitude de voir un site centralisé, twitter.com, youtube.com, etc. Mais je pense qu'on fera une émission technique là-dessus, parce que voilà, c'est un peu complexe. En tout cas, il faut du temps pour l'expliquer concrètement. Et donc toi, dans le Chapril, en fait, on explique, c'est que chaque service a un animateur ou une animatrice qui est en charge de sa mise en place et de sa maintenance. Et donc toi, en fait, ce que tu as proposé, c'est d'installer et de maintenir Mobilisons, qui est un outil très très attendu. Est-ce que tu l'avais déjà installé ailleurs avant, ou est-ce que tu l'as découvert, est-ce que tu découvres la technique de Mobilisons à l'occasion de cette mise en place au niveau du site Chapril?
Oui, alors Mobilisons, je le connaissais avant sa naissance. J'étais en discussion avec les gens de chez Framasoft pour dire « Eh, ce serait bien qu'on fasse un truc, ce serait bien qu'il y ait quelque chose dans le fait divers qui permet d'organiser des événements. » Et donc, il y a justement le développeur principal de Mobilisons, donc Thomas Citarel, qui est venu me dire « Bah tiens, oui, on prévoit de faire un truc, regarde, la doc, on a ouvert un wiki, tu peux contribuer, tu peux donner des idées. » Et donc, j'ai commencé à contribuer à Mobilisons bien avant qu'il soit développé. Ça aussi, c'est un point important quand on veut participer à des choses à plusieurs, c'est qu'il faut savoir, on n'est pas obligé d'être un techos, d'un développeur pour participer à quelque chose. Et c'est le cas aussi pour OpenStreetMap et pour beaucoup de choses. Et donc oui, je l'avais installé sur mon serveur à moi, parce que j'héberge aussi des services comme Mastodon, comme Peertube, comme d'autres. Donc c'est des trucs que je mets en ligne, les gens peuvent s'inscrire, ils peuvent poster des choses, et pareil, là, ils peuvent créer des événements, et les instances, donc toutes les installations de ces logiciels, peuvent communiquer ensemble. Mais ça, c'est pas un point qui est forcément déterminant pour les gens. J'ai été moi-même surpris de découvrir qu'il y a des gens qui utilisent Mastodon sans savoir qu'est-ce que c'est que qu'être fédéré. Donc, pour moi, c'est un peu curieux, parce que moi, j'ai un profil tech et que je m'intéresse à la technique, mais pour le grand public, peut très bien adopter des choses sans rien y connaître à la technique et tomber quand même dans des trucs qui sont quand même propres et bien foutus. Et ça aussi, c'est un point qu'il ne faut pas oublier.
D'accord. Alors Isabella, on va revenir maintenant un peu sur la partie sensibilisation. Quand on a préparé l'émission, tu m'as dit « Ouais Fabrice, ils mettent beaucoup sur les comptes rendus, donc comment ça se passe entre vous deux sur l'organisation dans cette période de confinement ?» Je ne sais pas qui veut commencer, entre Isabella ou Fabrice.
Ah bah, je peux commencer brièvement et puis passer le bâton de parole à Fabrice. Donc effectivement, à la fin de chaque réunion, bah déjà on fait un tour de table pour les points forts, les points d'amélioration de la réunion. C'est une façon de faire exprimer les personnes, de voir ce qu'on peut améliorer, de se féliciter pour le travail bien fait. Et puis on a l'habitude de faire un compte rendu qu'on publie sur la page wiki dédiée et qui est aussi annoncée sur la liste de discussion pour que toutes les personnes abonnées soient au courant, même si elles n'ont pas pu participer à la réunion. Et j'avais tendance en fait à accumuler un peu de retard pour la rédaction du compte-rendu, notamment depuis qu'on est en hebdomadaire avec nos réunions, parce que en tant qu'animatrice et en charge des projets, à chaque fois que je commençais un compte-rendu, j'avais la tentation d'aller travailler directement sur le projet, donc j'avais du mal à me focaliser, et du coup j'ai lancé un appel pendant une réunion, est-ce qu'il n'y aurait pas une personne qui pourrait se charger de ça. Et voilà, la magie a fait que Fabrice était disponible.
Alors Fabrice, justement ?
Alors tout simplement, j'ai l'écriture facile, donc pour moi ça me posait pas de problème de faire ces comptes rendus. Un compte rendu, effectivement, il faut le faire rapidement, mais sinon ça perd un petit peu de son intérêt. Et puis c'est toujours intéressant dans nos travaux de laisser une petite trace de ce qu'on a fait, ne serait-ce que pour accueillir les futurs participants, qui comme ça peuvent se rendre compte un petit peu du travail qu'on effectue toutes les semaines. Et puis, par biais de ces comptes rendus, on essaye aussi de faire venir d'autres personnes à notre groupe pour les inviter et venir s'amuser avec nous sur les mots, sur la sécurité, sur l'informatique libre, sur nos libertés individuelles, etc., etc.
D'accord. Tu viens de dire faire venir d'autres personnes. Alors j'ai une question pour Élodie. Parce que Élodie, tu es arrivée donc récemment via les podcasts de Libre à vous. Et en plus, tu nous amènes une autre personne indirectement. Parce que bientôt, on aura peut-être une voix de Libre à vous. Comment ça s'est fait cette mise en relation? C'est toi qui en as parlé à ta sœur? Parce qu'en l'occurrence, c'est ta sœur. Ou c'est elle qui t'a parlé de l'émission?
C'est moi qui ai parlé de ce projet. J'étais tellement contente d'avoir sauté le pas et d'apprendre autant et de voilà. Et c'est vrai que comme pour l'April, le partage pour moi c'est une valeur très importante. Je parle beaucoup de mes beaux projets et j'en ai parlé à ma sœur qui m'a dit tiens, mais il chercherait pas une voix parce qu'elle a une formation théâtrale. Et voilà. Du coup, j'ai transmis.
Alors, et ta sœur, effectivement, nous a contactés, donc Laure et Lise, elle nous a envoyé des premiers tests sur lesquels on a envoyé des commentaires. Alors, ça va prendre un peu de temps parce que, évidemment, trouver une voix, c'est quelque chose qui prend un peu de temps. Et puis, en plus, l'enregistrement final sera au studio, donc ce sera au studio quand ce sera humainement possible. Mais en tout cas, c'était de notre point de vue super de se dire que non seulement on a une contributrice sur les podcasts qui apprend vite et qui est efficace, mais qui en plus nous ramène une partie de sa famille pour nous aider sur quelque chose qu'effectivement, on n'avait pas identifié comme besoin, mais qui est utile d'avoir une voix de radio pour nos jingles, plutôt que de les faire manuellement. Donc par exemple, là, comme l'émission a démarré bizarrement, j'ai oublié de rappeler qu'on est sur 93.fm Cause Commune et sur causecommune.fm. Et je rappelle aussi aux personnes qui nous écoutent qu'il reste quelques minutes si vous voulez nous poser une question ou intervenir. Vous pouvez appeler au 09 50 39 67 59. Étienne attend fébrilement toujours votre appel téléphonique. Là, il est prêt, il est décontracté. Donc voilà, c'était vraiment sympa. Et c'est vrai que par rapport à une des choses que moi j'aime bien que j'apprécie en tant que délégué général par rapport à des bénévoles, c'est de voir aussi la fiabilité ou en tout cas que la qualité des bénévoles. Parce que toi par exemple, quand tu es arrivé, tu as dit j'apprends vite, et effectivement tu as appris vite techniquement, mais en plus on a vu sur un point particulier que tu avais des réflexions intéressantes, c'est sur la chronique de Véronique, et là je reviens sur les coulisses de Libre à vous. Donc Véronique Bonnet qui fait la chronique partager est bon sur la philosophie GNU. Donc en général on les enregistre sans les traiter, et là il s'est trouvé qu'il y a quelques semaines on a enregistré la chronique de Véronique, et je me suis dit tiens, comme il y a des gens pour traiter le podcast, ils vont le traiter avant diffusion. Et Véronique, si vous vous souvenez, a un phrasé un peu particulier avec des pauses, etc. Et tu t'es posé la question de savoir est-ce qu'il fallait supprimer les silences ou pas. Parce que moi, je ne m'étais même pas posé la question. Et donc, on a eu un échange avec Véronique qui a dit que finalement, elle préférait qu'on garde les silences parce que c'était son rythme de voix de professeur. Mais en tout cas, toi, tu t'es posé cette question-là que moi, je ne me suis pas posé et que je ne suis pas sûr que d'autres personnes qui traitent les podcasts se seraient posées, en fait.
C'est vrai que dans le wiki, c'était écrit qu'il fallait supprimer les silences entre les mots. Quand on traite le podcast et que les silences sont un peu longs, en traitement, on les supprime pour que ce soit plus fluide. Et j'avais déjà traité quelques petits podcasts avant, ou quelques petites parties, où effectivement, les gens avaient un phrasé très rapide. Et quand il y avait une pause, c'était évident qu'il fallait les supprimer. Et quand j'ai écouté ce sujet, j'ai commencé à supprimer les pauses. Et en fait, après, je me suis rendu compte qu'elle parlait comme ça et que j'en arrivais à modifier la signification de son discours. Voilà, c'était... effectivement, j'ai posé la question.
En tout cas, c'était super de ce questionnement qui montre aussi la qualité de l'échange. Alors, je regarde de l'heure. Il nous reste vraiment quelques minutes. Alors, pour éviter de se retrouver dans la situation de sprinter à la fin pour les annonces, je vais tout de suite vous poser la question finale, donc à chacun et chacune d'entre vous, qui est un peu la question: qu'est-ce que ça vous apporte de contribuer à l'April, et qu'est-ce que vous avez appris en contribuant à l'April, ou sur le livre, ou sur vous? Voilà, c'est une question un petit peu personnelle. Je vais commencer par exemple par Fabrice Noël.
Oui, alors qu'est-ce que ça m'apprend? En fait, ça m'apprend que la communication, c'est toujours un métier très difficile, et que chaque mot compte, chaque mot doit être pesé pour essayer d'expliquer les valeurs que l'on défend. Dans notre monde d'aujourd'hui, effectivement, tout devient relativement complexe, et c'est quand même assez compliqué de faire comprendre tous les principes que l'on défend, effectivement, au commun des mortels, parce que il y en a de partout. On pose différentes problématiques, etc. C'est très compliqué et c'est hyper enrichissant d'essayer de vulgariser un petit peu tout ça pour qu'on soit ensuite en mesure, d'aller expliquer ça au grand public, en fait. Et c'est hyper valorisant.
Bah écoute, merci Fabrice. Baptiste Lemoine.
Ouais, c'est ce que j'y vois, c'est l'apport humain qu'il y a derrière tous ces services, ces choses qu'on peut toucher sans vraiment comprendre. Moi, ce que ça m'apporte, c'est du savoir-faire, un échange avec des gens qui ont un savoir-faire un peu différent, une façon pas toujours la même de voir les choses. Tout ça, c'est enrichissant. Ouais. Puis aussi, je fais des ateliers avec des assos, et donc voilà, arriver à poser un discours, faire comprendre des choses aux gens, c'est vraiment un truc qui se travaille dans la longueur.
Merci Baptiste. Isabella? Isabella Vanni?
Donc pour ma part, depuis que je suis à l'April, j'apprends énormément de choses. J'ai appris une philosophie à laquelle j'adhère déjà, et puis à chaque jour, j'apprends de nouvelles choses, et plus spécifiquement par rapport au groupe sensibilisation, j'ai appris aussi à animer un groupe, parce que j'avais fait de la coordination bénévole ponctuellement par le passé, mais c'est vraiment avec l'April que je le fais plus régulièrement, et mon objectif, c'est de faire en sorte que chaque personne qui participe se sente à l'aise, pour s'exprimer, se sentent à la place, se sentent bien accueillis. Il y a des personnes plus bavardes, il y a des personnes plus silencieuses. J'ai fait en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. J'essaie de faire gaffe à la prise de parole. Et je trouve vraiment très chouette de se retrouver à 5, 6 chaque jeudi, peut-être plus après cette émission, et de discuter ensemble dans la bienveillance. Il y a des moments où on n'est pas d'accord, il y a des moments où il y a une phrase qui plaît à certaines personnes et pas à d'autres. On en discute, on apporte des arguments, que c'est une méthode de travail qui me convient parfaitement, et je compte progresser davantage pour qu'on continue à se sentir bien dans les réunions.
Bah écoute, merci Isabella, et pour te côtoyer depuis 2014, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup progressé, c'est un grand plaisir de travailler avec toi. Élodie Daniel-Giraudon.
Oui, déjà j'ai appris les techniques du traitement audio, j'ai découvert le logiciel libre Ardour et Audacity aussi. Et beaucoup de vocabulaire, ça a été plutôt difficile, mais je m'entends de mieux en mieux. C'est très agréable de découvrir les coulisses un petit peu de cette émission. Et puis j'écoute maintenant différemment, soit quand je traite le podcast, en écoutant 3 ou 4 fois, je découvre de nouvelles choses à chaque fois. Et aussi, en tant que simple auditrice, maintenant, j'écoute aussi le travail de mes collègues. C'est très rigolo. Partant de zéro, connaissance pendant le traitement du podcast, ça a boosté énormément ma confiance en moi. Et puis, partager des valeurs de bienveillance et de partage avec toute l'équipe et l'April, ça m'apporte aussi énormément. On n'en trouve pas tous les jours dans notre entourage.
Ben écoute, merci Lodi. Comme tu as prononcé plusieurs fois le mot bienveillance, c'est vrai que c'est un des points qu'on n'a pas forcément abordé, mais à l'April, c'est l'humain qui compte d'abord, la personne humaine avant la mission et avant la cause. Et malheureusement, c'est pas uniquement dans les entreprises, mais aussi dans le monde associatif, c'est souvent l'inverse. Souvent, la cause passe avant. Nous, ce qui compte avant, c'est la personne humaine. Donc, en tout cas, je suis ravi que vous contribuiez à l'April et que vous y preniez du plaisir. Je vous remercie de votre participation. Donc, nous étions, et je précise tout de suite qu'il y aura une deuxième émission, donc le 1er décembre 2020. Nous étions donc avec Élodie Daniel-Giraudon, Isabelle Avani, Baptiste Lemoine, Fabrice Noël. Je vous souhaite une belle fin de journée.
Merci.
À bientôt.
Salut tout le monde.